France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
La mine est entre deux réserves biologiques intégrales. C'est dans ces endroits-là, ce sera 20 tonnes d'explosifs par jour, ce sera 10 tonnes de cyanure par jour pendant 12 ans.
90% de ces retombées ne seront pas pour la Guyane, mais le plus dur, c'est que 100% des conséquences seront assumées par les Guyanais.
Ceux qui sont contre Montagne d'Or ou contre d'autres activités en Guyane vont dire il y a d'autres choses à faire. Oui, mais quelles sont les entreprises qui viennent le faire? Qui vient le faire? Personne.
Le projet Montagne d'Or va-t-il se concrétiser? Ce projet de mine à ciel ouvert dans le nord-est de la Guyane doit permettre d'extraire près de 7 tonnes d'or par an pendant 12 ans. Et la construction puis l'exploitation de la mine seront synonymes de création d'emplois pour la région où le chômage est deux fois plus élevé qu'en métropole. Mais le projet se heurte à de fortes oppositions. À l'heure où le chef de l'État souligne la nécessité de poursuivre la transition écologique pour faire face à l'urgence du réchauffement climatique, les défenseurs de l'environnement mettent en évidence les conséquences de ce projet de mine industrielle. Il suppose de déforester 600 hectares, soit 32 stades de France, à la lisière d'une réserve biologique intégrale où vivent plus de 100 espèces protégées. L'exploitation de la mine de la Montagne d'Or nécessitera aussi des quantités phénoménales d'eau et d'énergie et devrait augmenter de 50% la production de gaz à effet de serre en Guyane, sans parler des risques liés à l'utilisation de cyanure pour rendre l'or soluble. À l'issue d'un débat public tumultueux, la compagnie Montagne d'Or, dont les actionnaires sont le Canadien Columbus Gold et le Russe Nordgold, doit dire si elle souhaite poursuivre le projet. Elle le fera dans une semaine. L'État doit lui aussi se prononcer. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron s'est montré favorable au projet, mais Nicolas Hulot avait parlé de miroir aux alouettes et son successeur à la transition écologique, François de Rugy, a prévenu que le projet devrait être revu d'une manière ou d'une autre. Montagne d'Or en Guyane, bon ou mauvais filon, c'est un reportage signé Véronique Reberotte. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons aujourd'hui Jean-Mathieu Thévenot. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes membre de Systex pour Système Extractif et Environnement, une association membre de la Fédération Ingénieurs Sans Frontières. Et je précise que vous intervenez depuis Mende, où vous avez été accueilli par notre confrère Saïd Makhloufi de France Bleu Gard-Lozère. Nous allons écouter ensemble le reportage de Véronique Reberotte en Guyane, avant de revenir sur les conditions de l'extraction de l'or. Alors Véronique, il y a donc eu un débat public sur ce projet Montagne d'Or. Il a duré de mars à juillet et il a mis en évidence les très fortes divergences de vues entre promoteurs du développement et défenseurs de l'environnement.
Oui, un débat, on va l'entendre, dont les populations autochtones de Guyane se sont senties écartées, mises à l'écart. C'était d'ailleurs un des points relevés dans ses conclusions par la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau, qui notait aussi qu'un débat sur l'opportunité et les conditions de l'exploitation de l'or en Guyane aurait pu être un préalable utile. Alors ceci n'ayant pas été fait, ce débat public a mis en évidence une vraie fracture au sein de la population guyanaise, avec une inquiétude très forte autour des risques environnementaux et sanitaires liés à une exploitation industrielle de l'or en Guyane. Une mine, vous l'avez dit, à ciel ouvert, profonde de 400 mètres dans la forêt amazonienne, et l'utilisation de cyanure. Les ajustements demandés par le ministre de l'écologie et présentés donc il y a 15 jours, ces ajustements par la compagnie Montagne d'Or n'ont pas infléchi la position des opposants. Écran de fumée, ont-ils dit, même si désormais, par exemple, l'énergie nécessaire au projet pourrait être produite sur place et être en partie solaire. À l'origine, le projet prévoyait de couper encore plus d'arbres pour installer une ligne électrique de 120 km de long à travers la forêt amazonienne.
À l'occasion du débat public, la compagnie Montagne d'Or espérait pourtant convaincre. Elle s'était lancée dans un exercice de pédagogie, documents et films à l'appui.
Nous sommes la compagnie minière Montagne d'Or, une entreprise française de 26 salariés basée en Guyane. Notre projet vise à extraire l'or primaire en mine à ciel ouvert pendant un minimum de 12 ans. La roche est fragmentée à l'aide d'explosifs. Elle est ensuite concassée et broyée. L'or grossier est retiré par concentration gravimétrique. La pulpe restante est alors épaissie et traitée avec du cyanure pour mettre l'or en solution.
La vidéo montrée par la compagnie Montagne d'Or lors du débat public a de quoi séduire sur les aspects économiques, du moins. Elle s'y attarde largement. 3 milliards d'euros de retombées financières, sans plus de précision, et surtout du travail, des centaines d'emplois sur 12 ans dans un département français sinistré. À Saint-Laurent-du-Maroni, l'argument est mis en avant. Voilà, donc arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni, après 3h30 de route depuis Cayenne. La commune est située bien tout au nord de la Guyane. Elle est directement concernée, cette commune, Saint-Laurent-du-Maroni, par le projet minier La Montagne d'Or. Là, je me trouve tout près de l'office du tourisme, sur une place, une grande place, avec une sculpture d'un homme assis sur un bloc de pierre qui se tient la tête, qui a un fer au pied, certainement un bagnard de Saint-Laurent-du-Maroni, comme Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni a son bagne, et bientôt peut-être sa future mine d'or industrielle. Coincé entre cet office du tourisme et l'immense fleuve Maroni, eh bien on trouve le bureau de la compagnie Montagne d'Or, la compagnie minière Montagne d'Or. Voilà, donc je vais rentrer, je veux voir ce qui s'y passe.
Bonjour, je m'appelle Jean-François Auru, je suis le directeur des relations extérieures pour la compagnie. Aujourd'hui, le secteur minier en Guyane est basé uniquement sur de l'exploitation par des petites entreprises, des PME. Là, c'est une dimension beaucoup plus grande, c'est un projet industriel, donc des métiers différents, une grande variété de métiers en fait. Certaines personnes viennent en disant « Est-ce que moi, j'aurais éventuellement, avec mes qualifications, une opportunité d'emploi ?»
Là, on le voit, bon, on n'est pas sur le site, hein. Le site, il est loin. On va regarder sur la carte. Là, il y a des photos, oui. Effectivement, de végétation dense, on va dire, comme on imagine ici en Guyane. Et un autre panneau sur Montagne d'Or, un projet de mine responsable.
Alors, le concept de mine responsable est un concept qui a été mis en place depuis plusieurs années en France pour les mines du futur. Donc, savoir comment est-ce qu'une mine n'a pas uniquement une responsabilité environnementale, mais également une responsabilité sociétale. Comment est-ce qu'il s'insère dans le territoire pour devenir un acteur du développement du territoire et être un facteur stimulant l'économie locale?
Vous vouliez dire quelque chose? Vous venez chercher de vous renseigner, monsieur, c'est ça?
Ah oui, parce que oui, le travail, chercher le travail.
Vous cherchez, ouais.
Le travail, en Guyane, il n'y en a pas de travail.
Vous cherchez quoi ou vous espérez quoi? Vous avez apporté vos CV, oui.
Un CV, oui.
Peu importe quel travail, vous allez discuter. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer justement au cours de l'année?
Michel Desmangles. Donc je suis l'agent sur place.
Vous cherchez quoi? Vous recrutez?
Dans tout, cuisinier, chauffeur, conducteur d'engin. C'est assez varié. En général, ce qu'on retrouve dans le BTP se retrouve dans la mine aussi. C'est pratiquement les mêmes fonctions.
Vous pourriez faire quoi, vous, par exemple?
Moi, c'est au travail, les maçons, tout ça, fait travail. Nous avons l'habitude de travailler de l'or aussi.
De l'or? Oui. Vous avez l'habitude de travailler déjà?
Oui.
Dans quel cadre?
C'est
compliqué à expliquer.
Comme vous voyez sur le panneau qui est derrière nous, la majeure partie des emplois seront d'un niveau de qualification type CAP, BEP. Des techniciens, c'est les conducteurs d'engins, des mécaniciens, des conducteurs de bus, des techniciens laborantins, des informaticiens, tout un tas de compétences qui seront sur l'appareil industriel, que ce soit la mine ou que ce soit l'usine. Et puis après, tout ce qui est en parallèle sur la base vie, donc où il va y avoir effectivement service de restauration.
On est loin de tout là-bas, on est à combien de kilomètres d'ici?
On est à 125 kilomètres de Saint-Laurent.
C'est une vie un peu en vase clos. On sait ça, on bosse une semaine et on se repose une semaine.
Alors oui, ce sera en rotation.
En rotation
et les employés seront à la moitié du temps sur site et la moitié du temps en repos. Mais ça obéit aussi à quelque chose qu'on a déjà travaillé avec les organismes syndicaux pour être en accord avec la Convention du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis de longues dates. C'est juste pour s'accorder par rapport à une industrie nouvelle, quoi.
Pas de représentation syndicale dans le secteur minier, mais une opposition radicale du principal syndicat guyanais, l'UTG. Yannick Xavier, l'un des porte-parole de l'Union des travailleurs guyanais, en est convaincu. La Montagne d'Or ne soutiendra en rien la fragile économie guyanaise.
Les conditions de travail, c'est de la pure exploitation. On est vraiment sur des cadences effrénées, c'est-à-dire que ces personnes vont travailler entre 12 et 15 heures d'affilée, une semaine sur deux, tous les jours, du lundi au dimanche. Les ouvriers vont venir travailler 12 heures le matin, une deuxième équipe 12 heures le soir, et ça va tourner en non-stop, et ce sera un vrai four à broyer les hommes. tout ça, c'est sous couvert de l'État français, je vous rassure. Hein. Ce projet création d'emplois, c'est à peu près 700-800 emplois directs. Donc des gens qui vont venir et travailler. C'est à peu près 3000 emplois indirects. Sauf que c'est une exploitation, on va dire, industrielle sur 12 ans. Et au bout de ces 12 ans, il n'y a plus rien. Après ces 12 ans, on en fait quoi de ces 3000 Guyanais qui ont été formés dans ce métier qui est l'or, dans ce métier qui est l'extraction et la, j'espère la préservation de l'environnement qui sera autour, on en fait quoi? Quelles sont les retombées pour nous? Puisque à l'heure d'aujourd'hui, nous assumerons tout ce qui est pollution, tout ce qui est conséquence. Par contre, au niveau retombées, vous ne vous rendez pas compte, on est sur des miettes, même pas des miettes, sur de la poussière. Donc
Même de la poussière d'or, c'est pas grand-chose.
Ben non, mais non, mais non, mais non, mais non. 90% de ces retombées seront ou pour la France ou pour la Russie. Et rien pour la Guyane. Pour une petite échelle, ce sont des chiffres un peu vagues. La collectivité territoriale, c'est à peu près 53 millions sur 15 ans. La mairie de Saint-Laurent, c'est à peu près 10 millions d'euros sur 15 ans. L'État, c'est à peu près 200 millions d'euros à travers des taxes diverses et variées. Et la compagnie en elle-même, ça représente pas moins de 3 milliards.
Donc si vous dites que c'est rien pour nous.
63 millions d'euros, on va dire qu'un lycée à l'heure d'aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros. Il nous faut en construire 10. On ne peut pas les construire. Il faut en construire 10 lycées, il faut construire 5 collèges. On les prend où, les sous? Donc voilà, 90% de ces retombées ne seront pas pour la Guyane. Mais le plus dur, c'est que 100% des conséquences seront assumées par les Guyanais.
Pour les opposants, les conséquences, les dangers sont surtout pour l'environnement. L'exploitation de la montagne d'or nécessiterait de déboiser 600 hectares de jungle amazonienne et de transporter, stocker des millions de tonnes de boue contenant du cyanure. Michel Dubouillet, du collectif Hors de Question.
La mine est entre deux réserves biologiques intégrales dans lesquelles on ne peut théoriquement ne même pas toucher une brindille, tellement on est sur une base d'inventaire. C'est vraiment des berceaux de biodiversité qui ne sont pas finis de répertorier, tellement elle est riche en biodiversité. Et c'est dans ces endroits-là où quand vous allez faire exploser vos mines pendant une douzaine d'années, en sachant que
20 tonnes d'explosifs par jour. Hein.
20 tonnes d'explosifs par jour, ce sera 10 tonnes de cyanure par jour pendant 12 ans.
10 tonnes de cyanure utilisées par jour, vous l'avez dit, un cyanure après mélangé à des boues qu'il faut stocker du coup sur le site aussi?
Oui, c'est ce qu'on appelle les boues résiduelles qui sont cyanurées et qui seront retenues par des digues qui vont faire 60 mètres de haut. Et on va dire que l'ensemble du site qui va récupérer tous les stériles, l'usine et compagnie fera 400 hectares.
Donc ces digues, 60 mètres de haut, mètres qu'est-ce de qu'on haut, en fait? Ça reste là?
Ça polie et elles resteront là puisqu'elles seront, après avoir mis une géomembrane pour les garder, on va recouvrir avec un couvert soi-disant végétal pour essayer de masquer les choses et de les protéger. Mais ce qu'ils ne maîtrisent pas, par contre, c'est la pluviométrie de la forêt amazonienne par rapport à ce projet et sur lequel ils n'ont aucun élément qui leur permet de dire ça va se passer comme ça ou pas comme ça. On est vraiment dans un phénomène expérimental pour ces mines à ciel ouvert sur la Guyane.
Le seul objectif et le seul objet de la société, c'est d'industrialiser le développement des ressources minières en Guyane.
Pierre Paris, c'est le président de la compagnie Montagne d'Or. Homme pressé, entre deux avions pour défendre son projet à Paris. Projet revu et corrigé dans la foulée du débat public. C'était un souhait du ministère de l'écologie. L'énergie sera produite sur le site, du solaire notamment, promet Pierre Paris, pour éviter la construction d'une ligne électrique de 120 km. L'utilisation du cyanure en grande quantité est en revanche inévitable, confirme et tente de rassurer Pierre Paris.
Il est important de rappeler un point important. Le cyanure n'est pas le mercure. Aujourd'hui, ce territoire souffre malheureusement d'un usage historique du mercure, qui malheureusement perdure avec l'activité illégale par les exploitants illégaux, qui eux déforestent sans contrôle, exportent l'or en dehors des frontières du territoire et surtout utilisent le mercure. Mercure qui est bioaccumulable, c'est-à-dire qu'il va s'accumuler dans la chaîne alimentaire et va contaminer les poissons qui seront consommés par la population et qui donc à terme contamine la population. C'est un fait, c'est une réalité. Le cyanure, lui, au contraire, est biodégradable. C'est un produit qui, dans l'environnement, se détruit naturellement avec les bactéries, l'oxygène et le soleil. Donc, on passerait d'un produit qui a été utilisé historiquement, qui a des impacts importants, vers un produit qui, bien utilisé, apporte des garanties, justement, pour éviter toute contamination ou surcontamination des cours d'eau ou de l'environnement, et puis surtout, qui peut être maîtrisé.
Ces tonnes de cyanure, parce que c'est ça, hein, sur 12 ans d'exploitation. Donc, qu'est-ce que vous en ferez? Comment vous le stockez? C'est ce qui inquiète vraiment, en fait, hein, cette pollution au cyanure.
Alors, avant qu'il y ait pollution, il faudrait qu'il y ait rupture des dispositifs. Alors, ce cyanure, déjà, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Sur 12 années, ce serait 36 000 tonnes de cyanure et pas 50 et quelques mines, comme certains veulent bien le dire. Donc, on a optimisé ce process pour justement limiter l'utilisation du cyanure. Mais ce cyanure sera, quoi qu'il arrive, mise en œuvre exclusivement dans l'enceinte de l'usine, dans des cuves fermées avec un recyclage et sur des bassins ou bacs de rétention. Ce qui veut dire que les cuves sont faites pour ne pas céder et même s'il y avait une fuite, tout le contenu peut être retenu dans un dispositif de rétention. Donc on est dans un dispositif qui est adapté et qui permet de maîtriser parfaitement ce processus. Ce cyanure ne sera stocké que sur site. Sur notre site industriel, il sera débarqué sur le port, directement chargé sur des camions, transporté par des transporteurs qui sont habitués à ce genre de transport et qui eux-mêmes sont adhérents au code du cyanure.
Un de vos actionnaires, Nordgold, en Guinée, bon, on a vu ça ces derniers temps, c'est pas très encourageant ce qu'ils font là-bas. Et du bétail qui serait empoisonné par le cyanure, l'emploi, ben, finalement... Il n'y a pas trop de compétences locales, donc localement, la main-d'œuvre n'est pas employée. Alors là, vous dites, bon, on peut faire un peu du n'importe quoi en Guinée, alors qu'on ne fera pas ça sur le territoire français. Comme modèle, il y a mieux, quoi. Beaucoup de conflits liés autour de la mine.
C'est intéressant que vous me parliez de cet exemple. Donc, je reprécise que je suis président de la compagnie minière Montagne d'Or, et en cela, je ne suis pas employé par Nordgold ni par Columbus Gold. Et c'est très important de le rappeler. Parce que les agissements de mes actionnaires sont importants, bien évidemment, mais je ne peux pas apporter moi de détails sur ce qu'ils font ou qu'ils ne font pas, sachant que je ne connais pas ces sites déjà. Mais quand même, je vous inviterai à...
C'est embêtant, non ? De ne pas savoir comment ils travaillent ailleurs ?
Je vous dirais, à l'arrivée, c'est moi qui décide pour ces sociétés. Cette société est une société de droit français qui respecte bien évidemment la réglementation française et européenne. J'ai moi-même une longue expérience dans la mine et je sais comment il faut pratiquer pour faire les choses bien. Donc je pense que je n'ai pas besoin de ces exemples extérieurs pour garantir que ce développement, s'il doit se fera dans le respect bien sûr de la réglementation et si possible en allant au-delà.
Yes I, on vient pour parler pour la jeunesse, mais aussi pour ces grands mouillants. On vient parler pour les Guyanais, que tout ça garantit la Guyane. Parce que t'as grave, messieurs, mais t'as grave. Y'a qu'à finir que projet, messieurs. Mais à volant, y'a les volants nous. Y'a les prend tout ça nous gain. Y'a les prend tout nous là. Yeah. Faut nous ouvrir nos yeux. Parce qu'il y a bon, vieux bête qui va passer. Ok.
L'opposition à la mine de la Montagne d'Or est hétéroclite et forte. Entre 70 et 80% de la population y est opposée. Aux arguments développés par les défenseurs, dont l'environnement, s'ajoutent ceux des organisations amérindiennes non négociables. Les peuples autochtones ne se laisseront plus faire, lit-on dans leurs communiqués ou sur leurs pancartes, déterminés à sauver leur patrimoine humain et leurs forêts.
Cette route-là, il y a que quelques mois, ça a été rénové. Hein. Avant, c'était en piteux état. Il y avait plein de trous partout, etc.
Christophe Pierre, longs cheveux noirs défaits sur ses épaules, incarne cette opposition au sein de la jeunesse autochtone guyanaise. Nous prenons le début de la piste qui conduit au site de la Montagne d'Or. Piste de terre rouge, boueuse en ce début de saison des pluies, mais qui serait asphaltée sur 120 km si le projet devait voir le jour. Donc là, on a pris donc un bout de piste. Il s'appelle comment cette piste ?
Ici, c'est la piste de Polisna. Donc, à peu près à 120 km d'ici, il y a le site du projet Montagne d'Or. Donc, l'ancien site nommé Citron, où actuellement il y a, Ils sont déjà basés, il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont présentes.
La compagnie Montagne d'Or.
Ouais. Et tout autour, plein d'illégaux.
Des orpailleurs illégaux.
Voilà. C'est un site qui est exploité pour l'or depuis une centaine d'années, hein, quand même. Il faut avoir ça en tête. Mais où on a gratté quelque part qu'une partie de la surface. Donc là, il s'agit de faire un gros trou.
Là, ce serait industriel, donc mine à ciel ouvert, ouais. À base d'explosifs, c'est ça, exploser la roche.
Ouais, là, actuellement, les orpailleurs illégaux, ils utilisent du mercure. Et là, on va passer au cyanure. Donc, c'est des tonnes, des tonnes et des tonnes, quoi. Donc, sans compter les allers-retours des camions. Enfin, voilà, c'est une grosse machine qui va se faire pas loin de chez nous. Et du coup, voilà, nous, on s'y oppose, quoi.
Vous faites partie de la jeunesse autochtone guyanaise. Vos arguments, vous, c'est une partie de l'opposition, hein, parce qu'il y a plusieurs oppositions, finalement. Il y a plein d'opposants. Et vous? Mais ben, particulièrement puisqu'on est sur les terres ancestrales là.
Mais la Guyane, c'est une terre amérindienne, hein, avant tout. Il faut savoir que le fait que la Guyane soit française aujourd'hui, c'est basé sur la déshumanisation des Amérindiens. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle la spoliation des terres, quand les Français sont arrivés ici, ils ont décrété que le 100% du foncier leur appartenait. Donc aujourd'hui, nous, Amérindiens, descendons des premiers habitants. Hein, donc nous, on est présents ici depuis des milliers d'années. On n'a pas de terre. Donc voilà, du coup, dans notre combat pour récupérer nos terres, il y a bien sûr la montagne d'or qui est présente sur notre territoire, en fait, et qu'on refuse de voir transformer de cette manière.
Donc, Pourquoi cette importance aussi, la montagne d'or? Expliquez-nous ce site-là particulièrement.
C'est en fait, tout autour de la montagne d'or, il y a des collines couronnées. Il y en a une quinzaine. Couronnées, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une colline dans laquelle on a creusé une tranchée tout autour du sommet. Ça prouve que l'Amazonie est une forêt, un grand jardin géré par les Amérindiens depuis des milliers d'années. Voilà, c'est ce que ça veut dire, parce qu'il y a des plantes qu'on retrouve que dans ces collines-là, que la biodiversité y est plus importante, mais ça souligne juste le savoir-faire de nos ancêtres, en fait. On y a retrouvé des traces de pratiques funéraires aussi, donc voilà, enfin. Et pour nous, c'est très important, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les morts, on ne fait pas n'importe quoi avec ce qui s'est passé avant. Donc voilà, et le fleuve de la Mana, puisque la montagne d'or sera située sur le versant de la Mana et non du Maroni.
Gros fleuve.
C'est un gros fleuve qui actuellement est déjà beaucoup impacté par l'orpaillage illégal. Mais c'est un peu notre artère spirituelle à nous en tant que Kaliniens. Donc voilà, c'est pour tout ça que nous on s'est opposés. Et ensuite, nous on s'est opposés tout en ne connaissant pas le projet. Rien qu'à cause de ça, on s'est déjà opposé. Parce que ça aurait été une autre activité, on se serait opposé également. Parce que c'est le site, en fait, c'est l'emplacement qui nous pose un problème. Et au-delà de ça, après, c'était les changements que vont impliquer l'industrialisation de la filière minière, quoi. C'est dangereux, ça change les sociétés en profondeur. Et du coup, nous, on ne veut pas que la terre de nos ancêtres soit retournée pour... que l'or retourne dans des coffres de banques sous terre. Donc, si il est aussi bien sous terre ici, pourquoi il serait bien sous terre en France, en fait, ou en Russie ou au Canada? On refuse d'être déplumé pour que d'autres s'enrichissent. C'est sur notre dos, quoi. C'est toujours pareil. Pour construire la base spatiale, il y a eu des expropriations des familles, il y a eu l'exploitation des populations amérindiennes, ouais, pour la base spatiale de Kourou. Donc non, nous on refuse ça, parce que là il faut penser plus à l'eau. Pour nous, le plus important, c'est l'eau, c'est l'eau potable, l'accès à l'eau potable pour tout le monde. C'est un droit, en fait, c'est un droit inné qu'on ne peut pas nous enlever. On a droit à un environnement sain où s'épanouir, où faire grandir et mûrir nos enfants. Donc non.
J'avais bien aimé, vous aviez pris la parole l'année dernière à la COP23, c'est les grands sommets sur le climat, c'était à Bonn. Je peux vous demander de me relire ce que vous aviez dit?
Merci. Dans la tradition amérindienne, on nous apprend que ce qui est sous la terre, ce sont les problèmes qui ont déjà été réglés par les anciens. En fouillant le sol, on va réveiller ce que les anciens avaient déjà réussi à résoudre au prix d'énormes sacrifices. La mine, ce n'est pas quelque chose qui donne envie, qu'elle soit légale ou illégale. Ce n'est pas une belle vie, c'est salissant, c'est épuisant sous le soleil, on vit loin, en forêt, loin de sa famille. Je connais des jeunes qui ont eu l'opportunité de travailler sur des sites légaux ou illégaux, et personne ne peut rêver de cette vie-là.
Sort de la forêt, là il y a du bois.
D'accord. Du bois. Ça c'est les lianes. Donc ça c'est les lianes.
Dans son gîte du village de Terre Rouge, la chef coutumière Bénédicte montre avec une certaine fierté ses instruments et ses poteries issues de la forêt. Entre autres richesses de cette forêt amazonienne que les Amérindiens veulent à tout prix protéger.
Ça fait des manifestations, mon tambour. Ça, c'est mon tambour. Nous sommes opposés, je suis opposée, et la chefferie s'oppose aussi à ce projet de montagne. Pourquoi ? Déjà, premièrement, comme on tient à le rappeler, nous, peuple premier, si nous avons survécu, c'est vrai qu'au début, nous étions nombreux, mais si nous avons survécu en forêt, c'est qu'on a toujours respecté la forêt. On a toujours su comment protéger et travailler, et en habitant en forêt. On a besoin de cette forêt. Un, déjà, pour l'être humain, on a besoin de l'oxygène. Qu'est-ce qui produit l'oxygène ? Les arbres. Et non seulement ça, c'est au niveau des plantes médicinales. Où ça se trouve ? En forêt. Nous, on ne garde pas les arbres pour faire joli, c'est parce qu'ils servent à quelque chose. Ils servent à quelque chose. Et souvent, comme en tant que chef du village, je vois qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent chercher des feuilles. Et moi, je leur dis, mais vous savez pourquoi on les garde ? C'est pas pour faire joli, c'est parce qu'on en a besoin. Vous réfléchissez pas, vous coupez tout, et après vous allez chercher ailleurs. Et quand je vous dis, il faut demander la permission, ça vous plaît pas. Donc, on réfléchit à l'envers, on coupe, mais après on dit, ah, on a besoin de ça. Mais c'est ça, donc, comme je dis, on préserve pas pour faire joli, pour emmerder le monde. Non, c'est parce qu'il y a une biodiversité multiple en forêt. Et au niveau des plantes médicinales, il y en a plein. Pourquoi les anciens, ils ont toujours retenu oralement tous les savoir-faire au niveau des plantes. C'est vrai que les occidentaux, ils marquent maintenant. Ils écrivent tout, les plantes. Moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Est-ce que ça sert à quoi ? Je dis non. Je vais vous dire à quoi ça sert. Vous le marquez. Après, vous allez l'exploiter. Et nous, qu'est-ce qu'on en retour ? À rien. Voilà. Je ne suis pas contre le développement économique, mais ce projet de Montagne d'Or, ce n'est pas un petit projet, c'est un immense projet des multinationales. On a du mal à imaginer, mais comme on voit les exemples de ce qui se passe au Brésil, mais ils nous disent, mais nous, c'est bien réfléchi, on fera en sorte que bon, le trou sera rebouché, on nous endort toujours avec des belles paroles. On nous en donne toujours avec les promesses, ben voilà, on va vous donner ça. Mais zéro confiance, comme je dis. La seule fois où on a accepté justement de recevoir les représentants de la Montagne d'Or, c'est au village Pierre. Les autorités coutumières les ont invités. Ils ne sont jamais venus. Pourquoi ? Ah, parce qu'ils demandaient la présence des gendarmes. Ben, si on leur a proposé de venir, c'est pour justement qu'on ait une discussion. Mais ce sont les gendarmes.
Une protection.
Il a besoin d'une protection contre les autorités coutumières ? Non. Là, ils ne sont jamais venus. Et donc, ça, c'est une insulte, comme je dis, vers les autorités coutumières. Ça veut dire qu'on ne nous prend pas au sérieux, qu'on ne prend pas en compte notre avis. C'est ça. Et après, on nous dit qu'on est invité à Cayenne, je ne sais pas où, à Montabo, au nouveau hôtel, je ne sais pas où, avec repas, transport payé. On est quoi ? On n'est pas des jouets, hein, qu'on manipule là-bas. Vous voyez, on ne vient pas chez vous, hein, mais vous venez là-bas, on vous paye le transport, la bouffe. C'est fini ce truc-là. On n'achète plus les personnes comme ça.
Non, à la montagne d'or ! Non, à la montagne
d'or ! Je suis Johannes Eleonore, je suis membre du collectif des Premières Nations et porte-parole du collectif Hors de Question. Si le promoteur continue son projet, le 7 décembre, il doit dire s'il continue son projet. Quand les premiers camions vont arriver, ils nous trouveront sur la route de Polznach. Donc on se prépare à l'affrontement. Il y aura affrontement.
Vous opposerez physiquement ?
Physiquement. Et ils le savent très bien, parce que ce n'est pas la première fois qu'on leur dit. Parce que quand on nous pose la question, et que ferez-vous si le projet se met en place quand même ? Mais physiquement, nous serons là-bas. Sur la route. Et je vous dirais que, comme ils ont refait la route là, une belle route pour les miniers, ce sera très facile pour nous d'y aller aussi. Et je disais que quand j'ai vu cette belle route là, j'ai pensé à tous les villages qui n'ont pas de route potable. J'ai pensé à ça.
Pour qu'il n'y a pas d'argent pour le faire.
Voilà, exactement. Donc, ce sont des laissés pour compte, mais par contre, on favorise des entreprises étrangères, on leur déroule le tapis rouge pour qu'ils puissent s'installer et venir avec leur camion. On leur donne tout ce qu'il faut, mais nous, ils vont nous trouver là-bas.
Nous trouverons comment ?
Déterminés. Nous ne serons pas seuls parce que, de toute façon, nous sommes nombreux à être opposés à ce projet. Vous dites 70%, 80%, peut-être que nous serons 100% là-bas. Moi, je dirais ceci. C'est au président de la République, de décider s'il veut ou non la guerre civile. S'il ne veut pas, il dira non à ce projet. S'il veut la guerre civile, il dira oui. Et alors là, ce sera de la continuité des premiers colons qui sont venus, qui ont massacré les populations amérindiennes. Alors, ce sera peut-être le deuxième conquistador, M. Macron.
La Guyane n'est pas un gâteau que l'on peut se partager. Peuple dit la Guyane, faut se tchèber, et faut pas décourager. À nous pays, à nous la terre, à nous pour décider. Ça nous fait laisser pour nous, Timon Moto, à nous pour décider. Moi je dis non, 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 non.
Les élus guyanais soutiennent majoritairement le projet de la Montagne d'Or. Eldorado, développement économique attendu, c'est la position d'Emmanuel Macron. À trois reprises, le ministre, puis le candidat et enfin le président de la République a défendu le projet. Le maire d'Awala Yalimapo, Jean-Paul Ferreira, est un des premiers et rares élus de Guyane à avoir pris position contre le projet.
Ce qui m'ennuie essentiellement, c'est l'attitude de l'État qui, visiblement, soutient fortement ce projet. Parce que l'État n'a jamais su, depuis des décennies, donner une autre alternative que ce qui se passe à Kourou. Je veux dire, le centre spatial européen, je rappelle, de Kourou, aujourd'hui donne toute son indépendance spatiale à l'Europe et à la France notamment. Et c'est tout ce qui intéresse en réalité la France. Et aujourd'hui, la Guyane souffre de cela et n'est pas accompagnée sur d'autres alternatives possibles en termes de développement de ce territoire. J'en veux pour preuve, la question de Montagne d'Or, par exemple, est très criante parce que l'État va quand même investir plus de 400 millions d'euros de fonds publics pour la création d'emplois, ce qui est un paradoxe.
Chaque emploi est largement subventionné.
Largement subventionné. Je me dis que si cet argent était investi dans des filières sur la question de la biodiversité notamment, etc., je pense que la Guyane aurait vu, en tout cas, des impacts socio-économiques beaucoup plus importants qu'elle ne connaît aujourd'hui. Et cet accompagnement de l'État doit être effectivement concrétisé, mais dans d'autres projets que dans des projets de ce type-là. Au moment où la France, du point de vue international, prend des positions, je veux dire, sur la question de la préservation de notre planète, des ressources, etc., la question du réchauffement climatique, etc., au niveau international, la France s'est énormément positionnée, en tout cas en termes de leadership, sur ces questions-là, et sur son propre territoire, fait ce qui a été fait il y a 50 ans, 100 ans, quoi. Donc c'est quand même un paradoxe de ce point de vue-là. Il ne faut pas se leurrer de ce point de vue-là. C'est vraiment pas une activité qui grandira la Guyane, en tout cas dans les années qui viennent.
Vous dites que l'État n'a pas tout à fait compris ce qu'il fallait faire ici. Quelle est leur vision, selon vous, effectivement quelque chose d'assez loin, des vieux schémas,
des vieux schémas appliqués à nous, mais pas pour eux, bien évidemment. C'est du néocolonialisme, ça n'a pas d'autre nom.
Le projet séduit les élus parce qu'effectivement la situation ici, j'ai plus de 20% de chômage. Chez les jeunes, ça atteint 40%, je crois. Hein. Mm-hmm. Donc ça veut dire que c'est vu évidemment comme une solution, même si elle n'est pas pérenne. Et qu'elle est...
Comme je le dis souvent, moi je peux comprendre les élus. Hein. Je veux dire, c'est tous les jours dans nos administrations respectives, dans nos communes, on reçoit des demandes qui sont liées un, à l'emploi et deux, au logement en Guyane. Les choses étant liées par ailleurs.
Population qui...
Voilà, qui augmente, qui a une démographie exceptionnelle en Guyane que l'on ne connaît pas ailleurs sur le territoire, en dehors de Mayotte. On est bien dans une situation atypique, originale en Guyane, qui mérite forcément des réponses originales de ce point de vue-là aussi. Et innovantes. Parce qu'on est dans des réalités complètement différentes. L'immensité du territoire, le retard en termes d'équipement structurel, d'équipement de base, rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, et des gamins qui ne vont pas à l'école. On a énormément de mal à se faire soigner correctement en Guyane. Je veux dire, ce sont des éléments de base dans une vie quand même. Et c'est une honte pour moi, pour la France, qui se veut donneur de leçons à l'international, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui n'est pas capable de donner les bases d'un développement ici. Ce sont des compétences régaliennes, ces questions-là. La question de stratégie nationale sur un développement, sur un territoire aussi important pour la France, en termes de biodiversité, de présence géopolitique, etc., sur le territoire sud-américain, je veux dire, on peut réfléchir les choses autrement, quand même.
C'est le droit au développement pour la Guyane, mais pas le même que défend Lénaïck Adam. Le député En Marche accepte mal les leçons d'écologie venues de l'extérieur.
Moi, je pense que chacun son tour. Il ne faut pas condamner la Guyane. Tout le monde a fait un peu ce qu'il voulait pour développer leur territoire, leur croissance. Maintenant, c'est au tour de la Guyane. Tout le monde nous dit, bah, écoutez les gars, laissez la forêt statique, la forêt amazonienne, ça nous sert bien à nous autres. On a développé nos villes, nos pays, nos régions. Il n'y a pas de problème, mais vous maintenant, puisque on est à une heure peut-être fatidique, vous devez tout mettre tout sous cloche et puis vous laissez tout comme ça. Et nous, on va profiter de ce que peut apporter l'Amazonie, la biodiversité, toutes ces questions-là. Je suis contre cette démarche-là. Je pense que la Guyane, est, par la disposition des choses, est condamnée à se développer. Et heureusement.
Par la mine.
Pas que par la mine. La mine peut se faire parallèlement à d'autres activités. Mais la mine, quand vous allez à la crique, je suis désolé, vous mettez votre main dans l'eau à certains endroits, pas partout, ou en Guyane, mais vous trouvez de l'or. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut structurer la filière, il faut accompagner ceux qui font peut-être mal, mais je vous dis, aujourd'hui, il faut accompagner et les Guyanais qui sont des artisans, des petits qui ont besoin d'émerger aussi et de produire, mais il faut aussi, je crois, d'un autre côté, ne pas systématiquement bloquer tout en évitant de brader le territoire, puisque comme je le dis et je ne cesserai de le répéter, vous êtes dans les règles, il faut accepter votre dossier, vous n'êtes pas dans les règles que détermine notre pays, on écarte votre dossier.
Vous êtes député En Marche. Est-ce qu'il y a, vous comprenez parfois l'argument de dire il y a des beaux discours au niveau national, notamment du président de la République, sur la planète, la défense de l'environnement, et ce projet-là n'est pas tout à fait cohérent justement avec des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, de protection de la forêt. C'est un argument quand même qu'on peut entendre.
Ça, c'est du blabla de personnes qui n'habitent pas en Guyane. Laissez les Guyanais choisir ou décider de leurs affaires. Le président de la République est totalement en cohérence avec ce qu'il dit. Comme je vous l'ai dit, chacun son tour. Nous, aujourd'hui, si c'est par la mine qu'on doit se développer, ben, développons-nous par la mine. Si le pétrole peut nous apporter, ben, que le pétrole nous apporte. Quand d'autres, et d'ailleurs la France continue... je crois d'avoir certaines activités de part Total ou d'autres entreprises. Personne ne trouve ça scandaleux dans le monde. Si la Guyane peut se développer par ça aujourd'hui, la transition écologique, eh ben, en tout cas, on verrouillera au mieux pour se rapprocher de la transition écologique et ne pas faire d'écart et ne pas faire n'importe quoi. Mais la Guyane doit se développer. Pendant qu'ici, on parle de supprimer le nucléaire ou d'autres procédés et qu'il faut aller vers le renouvelable, en Guyane, on demande juste à avoir de l'électricité. Et donc, on n'a pas la même réalité.
Mais la Montagne d'Or sera une solution à tout ça, un projet comme celui-ci.
Montagne d'Or n'est pas disposé à venir régler tous les problèmes des Guyanais. Hein. Faut que tout le monde sorte ça de sa tête. Mais la Montagne d'Or, ce n'est pas Montagne d'Or non plus qui va amener tous les problèmes des Guyanais. On parle de précarité, que ça sera dans 12 sur 12 ans, sur 13 ans, oui, c'est cela. Allez dire à celui qui fait la mule ou qui transporte de la drogue, allez lui dire que c'est mieux de faire 2 transports annuels que de travailler 13 ans ou 20 ans sur Montagne d'Or. C'est inacceptable. Arrêtons un peu. Il y a des salariés de la précarité, vous avez travaillé 13 ou 20 ans. C'est déjà pas mal, je crois, dans une vie. Je ne dis pas qu'on devrait travailler que ça, mais c'est totalement mieux que rien. C'est totalement mieux que rien parce
personne
que...
vient vous voir pour vous en proposer d'autres activités économiques.
Non, ceux qui sont contre Montagne d'Or ou contre d'autres activités en Guyane vont dire il y a d'autres choses à faire. Oui, mais quelles sont les grandes entreprises qui viennent le faire? Qui vient le faire? Personne.
Montagne d'or ou le mirage économique? La Guyane a bien d'autres potentiels que le secteur minier, veut démontrer le WWF. L'association a confié au cabinet de conseil de loi développement durable une étude détaillée. Laurent Kell du WWF Cayenne.
La commande, c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce qui pourrait être pertinent dans le contexte guyanais de 2018 de développer pour à la fois répondre aux besoins de création d'emplois. C'est une réalité, il y a un fort taux de chômage en Guyane et il faut y répondre, tout en étant bien sûr en adéquation avec les politiques nationales et internationales de préservation de l'environnement et de réduction de l'effet de serre et donc de lutte contre les changements climatiques. D'après les économistes de Deloitte, il est pertinent aujourd'hui d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la pêche, d'investir dans l'exploitation forestière, d'investir dans le tourisme, puisque ce sont notamment les filières qui ont le plus fort effet d'entraînement auprès du tissu socio-économique local. Et ça aussi, c'est un résultat important qui provient de l'étude de Deloitte, c'est-à-dire que si demain l'économie de l'extractif, notamment industriel, produit 100 euros de plus au sein du territoire guyanais, simplement 7,50 euros de ces 100 euros de production supplémentaire seront liés aux autres filières locales. Pourquoi ? Parce que le secteur extractif, notamment industriel, importe énormément de ses moyens de production. A l'inverse, on se rend compte que d'autres filières qui sont finalement beaucoup moins promues jusqu'à présent, l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière, l'agroalimentaire, le tourisme, pour ne citer que 5 d'entre elles, 10 d'entre elles seront nécessaires d'après Deloitte pour générer le fameux choc économique qui répondrait à la fois au développement économique soutenable de la Guyane et à la création d'emplois qui est nécessaire dans les années qui viennent pour le territoire. Une question se pose par exemple de se dire, mais peut-être qu'il faut des mines pour réussir la transition énergétique. Et c'est une réalité, il faut du lithium par exemple pour créer des batteries. Là on parle de l'or. L'or, quel est son devenir quand on suit le cheminement de la mine jusqu'à la vitrine? C'est d'ailleurs le titre d'une précédente étude du WWF qui montre que plus de 50% de cet or, il finit dans des bijouteries, il finit dans des banques. Donc on n'est absolument pas dans une logique, dirais, type 21e siècle où on est en train de préparer le futur. Au contraire, on est plus sur des habitudes, sur des valeurs refuges pour certains, sur des volontés de célébrer pour d'autres qui peuvent être respectées. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi ouvrir des nouvelles mines d'or aujourd'hui en Guyane? Si c'est pour répondre à la question de l'emploi, on n'y croit pas du tout. C'est pour répondre à la question de la lutte contre l'orpaillage illégal, on sait que c'est totalement faux. Si c'est pour répondre à la question de l'intérêt global du territoire, le débat public a bien montré qu'une majorité des Guyanais s'opposent aujourd'hui à ce projet. Donc typiquement, qu'est-ce qui reste en termes de pertinence autour d'un projet comme Montagne d'Or aujourd'hui en Guyane? C'est surtout de répondre à une volonté de mettre en place un projet spéculatif qui aura potentiellement une rentabilité très élevée pour les investisseurs qui sont avant tout russes et canadiens sur l'opération Montagne d'Or.
Non à la Montagne d'Or, une chanson signée Snipa, un jeune artiste guyanais membre du collectif Hors de Question. Montagne d'Or en Guyane, bon ou mauvais filon, un reportage de Véronique Roberotte avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, le magazine de la rédaction, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons notre invité Jean-Mathieu Thévenot, membre de l'association Systex, système édu extractif et environnement, en direct de Mende en Lozère. Jean-Mathieu Thévenot, si le projet Montagne d'Or se concrétisait, est-ce que ça pourrait marquer le début d'une filière industrielle en Guyane?
Alors oui, bien sûr, hein, on sait que donc il y a un certain nombre de permis d'IPERM, donc permis de recherche exclusif dans le droit minier français qui ont été accordés à de nombreuses entreprises internationales en Guyane. Le projet le plus avancé actuellement, c'est celui de Montagne d'Or, mais évidemment les autres entreprises sont un petit peu, on va dire, en train de regarder ce qui se passe, et si ce projet eh bien, venaient à être réalisées et à passer en phase d'exploitation, évidemment, elle s'engouffrerait donc dans cette occasion pour elle-même développer les autres projets. Donc, on sait que c'est la porte ouverte au développement d'une filière industrielle orifère en Guyane. Et d'ailleurs, un certain nombre des intervenants qu'on a entendus dans le reportage tout à l'heure le sous-entendaient clairement.
Alors, qui sont Columbus Gold et Nordgold, les porteurs de ce projet Montagne d'Or ?
Alors, on est dans un, on va dire, un scénario assez classique dans le secteur minier, c'est-à-dire que nous avons une junior et une major. Donc, ici, la junior, c'est l'entreprise canadienne Columbus. Donc, ces entreprises, en fait, ce ne sont pas des entreprises qui ont les moyens de vraiment réaliser des projets miniers de cette ampleur. C'est plutôt des entreprises qui sont, on va dire, des préparateurs de terrain. Donc, ils récupèrent des permis de recherche miniers, ils vont faire de la recherche pour voir si le gisement est intéressant, ils vont faire des études socio-environnementales pour étudier un petit peu les impacts potentiels, ils vont tâter un peu le terrain avec les autorités nationales et locales. Et ensuite, ils vont revendre ce projet à une major qui est, elle, une entreprise industrielle qui va pouvoir mettre en place une exploitation industrielle. Dans ce cas-là, c'est donc Nordgold, l'entreprise russe. On voit qu'il y a déjà une évolution, puisqu'au début, donc, Columbus était l'actionnaire majoritaire de l'entreprise Montagne d'Or, de la compagnie Montagne d'Or en Guyane. Et là, récemment, ils ont revendu une partie de leur part à Nordgold, qui est devenu l'actionnaire majoritaire. Et donc, on peut imaginer que si le projet venait à voir le jour, eh bien, ils revendraient l'intégralité de leur part à Nordgold. Donc, c'est bien Nordgold qui va exploiter le gisement de Montagne d'Or. Columbus n'est là que pour faire finalement la préparation en avance, quoi.
Alors, le russe Nordgold, qui n'a pas forcément très très bonne réputation, je crois qu'il n'a pas travaillé de façon exemplaire en Guinée.
Oui, alors en effet, bon, je reverrai vers l'excellent reportage de certains de vos confrères qui a été fait justement sur les conditions de certaines mines d'or gérées par Nordgold en Guinée. Je rajoutais pas forcément beaucoup d'éléments là-dessus, mais juste peut-être préciser que Nordgold travaille principalement dans le monde sur des mines dans des zones plutôt sèches, et en tout cas, ils n'ont pas d'expérience dans des zones tropicales comme la Guyane. Or, la météorologie de la Guyane est particulièrement complexe, hein, avec donc une pluviométrie qui est extrêmement importante. On est en plus dans une zone tropicale, donc de forêt qui est assez reculée, assez compliqué d'accès. Donc clairement, notre question aussi, c'est est-ce que Nordgold a l'expérience et a, on va dire, les moyens techniques de faire face à d'éventuels problèmes liés à cette météorologie extrême qui, je répète, n'est pas existante, par exemple, en Guinée, où ils ont d'autres problèmes, alors qu'ils sont dans une zone relativement sèche où, finalement, les conditions d'exploitation sont plus faciles.
Une question de Véronique Rebérotte.
Le secteur extractif, partout dans le monde, on peut parler d'un secteur quand même opaque, assez peu transparent, qui laisse penser effectivement que tout ne sera pas non plus forcément mis, accessible au grand public, et notamment dans une exploitation loin dans la forêt amazonienne. Ce secteur opaque, c'est une réalité ?
Oui, clairement, le secteur minier, c'est un secteur qui est assez inconnu du grand public. Hein. Je pense qu'en général, nous, quand ça nous arrive, donc avec Systex, de parler de ces questions-là, on se retrouve régulièrement dans des situations où les gens en face de nous n'ont pas du tout conscience des réalités et de la réalité, finalement, de ce secteur, de sa présence, par exemple, actuellement en France, et d'un certain nombre de projets miniers qui peuvent avoir lieu en Europe ou ailleurs, et au niveau international. Et en fait, c'est parce que c'est un secteur qui n'est pas en lien direct avec, on va dire, le grand public, puisque donc les entreprises minières exploitent des gisements, elles en sortent du minerai, qu'elles revendent ensuite à d'autres entreprises qui vont le transformer. Et donc, les entreprises que l'on connaît, c'est celles qui vendent les produits finis. Mais la plupart des grandes multinationales minières sont quasiment inconnues du grand public et elles profitent de ça pour finalement pouvoir opérer dans une certaine tranquillité par rapport aux médias et par rapport au regard citoyen. Et du coup, on a en effet une opacité qui est vraiment typique de ce secteur-là.
Mais qu'est-ce qu'elles ont à cacher, ces entreprises minières, vous nous dites, finalement ? Si elles travaillent selon, comme là, c'est une mine en France, avec la législation française, qu'aurait-elle à cacher ?
Alors, bon, la législation française, on entend souvent, on l'a entendu le reportage, Pierre Paris, se dire que c'était une législation qui allait être beaucoup plus rigoureuse, etc. Bon, nous, on se permet d'en douter parce qu'on a un code minier qui date de l'époque de Napoléon et qui a été très peu, voire pas du tout modifié depuis. Donc, il y aurait sûrement des choses à creuser de ce côté-là. Après, la question, c'est encore une fois, là, typiquement, on a une mine au fin fond de la forêt amazonienne guyanaise. La question, déjà, c'est quand on voit le gouvernement français qui a beaucoup de mal, finalement, à faire respecter la loi par rapport aux orpailleurs illégaux, est-ce qu'ils auront finalement plus de moyens de faire contrôler ces mêmes lois par rapport à une mine industrielle ? C'est une question qu'on se pose, on ne dit pas qu'on a des réponses, mais voilà, on sait que d'expérience, ces grandes multinationales minières dans le monde, en général, elles ont quand même tendance à avoir des impacts socio-environnementaux qui sont très forts. Et justement, c'est ça, hein, je dirais, une des raisons principales de l'opacité, c'est qu'elles ont tendance à essayer de cacher un petit peu, on va dire, la réalité des impacts sur l'environnement et aussi sur les populations locales ou sur les travailleurs du secteur minier, etc. elles n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça s'ébruite, on va dire, en général. Après, il y a des efforts qui sont faits depuis quelques années, mais malheureusement, encore une fois, à notre avis, la plupart de ces efforts, c'est souvent ce qu'on appelle des chartes volontaires, donc c'est des chartes de bonnes pratiques qui sont mises en place par le secteur minier, mais il n'y a pas vraiment un regard extérieur sur ce qui se passe, il n'y a pas vraiment un contrôle ou un audit indépendant sur la réalité des pratiques.
Mais alors, la compagnie Montagne d'Or met en avant beaucoup d'arguments pour défendre son projet. Est-ce que le développement d'une mine d'or industrielle mettrait, par exemple, un terme à l'orpaillage illégal? Parce que c'est ce qu'elle dit, hein.
Oui, bah c'est quelque chose qu'on entend très souvent et ça nous fait un petit peu rigoler parce que dans la plupart des endroits du monde où on a ce genre de scénario, c'est en fait le contraire qui se passe. C'est-à-dire que l'arrivée d'une mine industrielle a tendance à favoriser le secteur alors légal ou illégal, mais on va dire le secteur artisanal qui peut y avoir autour. Donc en Guyane, bon, il y a un secteur légal qui est déjà structuré, mais le secteur illégal, en général, le problème des mines illégales, c'est l'écoulement de l'or donc qu'elles ont produite. En fait, l'arrivée d'une mine industrielle avec les volumes d'or qui vont être traités dans ce cas-là, par exemple la montagne d'or qui sont absolument gigantesques, va faciliter finalement d'éventuels orpailleurs illégaux une revente au milieu, on va dire, je ne suis pas en train de dire que la montagne d'or va racheter de l'or aux orpailleurs illégaux, mais la présence d'une entreprise industrielle comme ça et d'export finalement de grosses quantités d'or de la Guyane va faciliter potentiellement pour eux l'écoulement de leur production, et ça c'est quelque chose qui est vérifié et qu'on peut observer dans un certain nombre d'endroits dans le monde ailleurs. Le problème aussi, c'est peut-être que finalement, encore une fois, je reviens sur l'opacité du secteur, l'or qu'on achète aujourd'hui, on ne peut pas savoir d'où il vient. Je vous invite à aller dans n'importe quelle bijouterie ou autre et demander l'origine de l'or que vous allez utiliser. C'est strictement impossible. On peut même pas s'assurer que c'est de l'or légal ou de l'or illégal. Donc, nous, notre question, c'est en quoi est-ce que Montagne d'Or va potentiellement faire réduire l'orpaillage illégal? On pense pas, et en tout cas, c'est pas ce qu'on voit ailleurs.
Et si on revient aux techniques utilisées, est-ce que le cyanure, c'est vraiment mieux que le mercure qui a été interdit?
Alors ça encore, c'est un raccourci qui est un petit peu facile parce que c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être. En fait, les mines industrielles ne fonctionnent pas au mercure. Le mercure, c'est une technique qui est utilisée donc par l'orpaillage en général illégal et c'est une méthode qui est utile et qui est fonctionnelle pour ce type de petite exploitation forestière avec peu de moyens techniques, peu de matériel. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que 80% des mines d'or dans le monde industrielles fonctionnent avec des techniques de cyanuration pour extraire l'or de la roche. Ça, c'est la réalité du secteur. Donc, comparer finalement le mercure et le cyanure, ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où, de toute façon, le mercure ne pourrait pas être utilisé par Nordgold dans le cas
de cette mine. Alors, quand ils disent qu'ils ont signé une charte du cyanure, est-ce que là, c'est un engagement, pour le coup, un peu plus important ?
On revient un petit peu sur ce que je disais, que c'est une charte de bonne pratique. Donc, techniquement, je vais vous dire oui, c'est positif qu'ils aient signé cette charte, évidemment, ça va dans le bon sens. Après, notre question, c'est quelle est la valeur réelle de cette charte? Qui c'est qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une charte de bonne pratique volontaire? Donc, c'est eux qui s'engagent à faire des choses. Après, qui va contrôler ça? Qui a rédigé cette charte? Dans quelles conditions va y avoir un contrôle du coup qui respecte bien les différents points? Nous, notre question, elle est plutôt à ce niveau-là, quoi. Et puis même sans parler finalement de la charte ou de bonnes pratiques, la question pour nous, elle est au niveau des risques environnementaux, on va dire, qui sont globaux. Et la question du cyanure, finalement, on a tendance peut-être à trop se focaliser dessus. C'est évidemment un risque qui est très important, mais il faut le remettre dans le contexte général. Il y a par exemple toute la question des métaux lourds qui sont présents dans les roches dont on va extraire l'or. Là, en l'occurrence, le gisement de Montagne d'Or, c'est un gisement où il y a beaucoup de sulfure, donc potentiellement générateur d'acidité, et une quantité importante d'arsenic. Là, on a un risque très important de drainage mini-acide, c'est-à-dire de pollution à l'arsenic des cours d'eau environnants et des systèmes hydrographiques. Donc le cyanure est un risque parmi d'autres.
Véronique Reberotte.
Est-ce que vous avez des exemples, vous qui travaillez à l'international, de mines d'or, où on en a d'ailleurs, où tout ça s'est mal, pas très bien passé, de mines d'or industrielles justement, avec emploi du cyanure?
Alors oui, juste un petit chiffre comme ça.
D'autres où ça s'est bien passé peut-être aussi?
Après, c'est le classique, quand ça se passe bien, on n'en entend pas forcément parler, mais on va dire qu'au niveau de l'or, en tout cas, les accidents miniers dans lesquels il y a du cyanure sont toujours des accidents très graves, évidemment, de par la nature de cet élément chimique. Je peux quand même dire qu'il y a environ une trentaine d'accidents majeurs liés à des déversements de cyanure ces 25 dernières années dans le monde, et j'en citerai un qui est assez particulier, on va dire, pour nous en Europe, qui est l'accident de Baia Mare en Roumanie en 2000, où c'était une mine d'or, donc où il y a eu une rupture et donc des déversements extrêmement importants de cyanure donc dans les rivières et en particulier dans le bassin du Danube. Donc un certain nombre de pays, notamment la Hongrie et des pays donc en aval, qui ont été impactés. Et ça a d'ailleurs entraîné une démarche européenne, à la fois citoyenne et des élus européens, pour demander une interdiction du cyanure au niveau européen. Un certain nombre de pays européens, de l'Union européenne, ont décidé d'interdire le cyanure dans l'activité minière dans leur pays. Donc, par exemple, l'Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque. Et ensuite, donc, les députés européens ont fait une demande que l'interdiction soit étendue au niveau de l'Union européenne, et ça a été refusé par la Commission à deux reprises.
Mais alors, tout ça donne vraiment pas envie. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'extraire davantage d'or?
Et voilà, là on arrive peut-être à la question qui, en tout cas nous, à Sistex, nous semble la plus importante, c'est la question des usages. C'est-à-dire que, bon, les mines ont des impacts environnementaux importants. Après, si derrière les avantages, on va dire, sociétaux, potentiels de ces métaux sont importants, ça peut valoir peut-être le coup de prendre ce risque, après avoir comment on pourrait faire pour réduire au maximum les risques environnementaux et travailler dans de meilleures conditions possibles. Mais là, clairement, sur l'or, nous, la question ne se pose presque même pas, puisque, en fait, c'est un métal dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Ça a été un petit peu dit sur le reportage. Les chiffres, encore un petit chiffre, c'est à l'heure actuelle dans le monde, c'est 8% de l'or extrait qui a des usages, on va dire, industriels, médicaux, que l'on peut considérer, bon, après, bon, c'est discutable aussi, mais qu'on peut considérer comme relativement utile.
Donc, le reste, que 92%,
luxe. C'est voilà, des bijoux et des utilisations bancaires, donc des lingots.
Merci
donc, la
beaucoup.
Question, pourquoi ?
Merci Jean-Mathieu Thévenot. Des remerciements aussi à Saïd Makhloufi, reporter en résidence à Mende, pour la liaison. Dimanche à 16h, l'émission de Cause à effet, le magazine de l'environnement, reviendra sur ce thème, une émission à laquelle vous pouvez participer en venant au studio 108 de la Maison de la Radio. Montagne d'or en Guyane, bon ou mauvais filon, le grand reportage de cette semaine était signé Véronique Reberotte. Réalisation Annie Bro, avec Jordan Fuentes à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.